Bonsoir à vous tous, merci d'être présents aujourd'hui chez Filigrane. Une annonce pour vous signaler la rencontre littéraire qui débute à l'instant à l'Espace Bar. N'hésitez pas à venir nous y rejoindre pour rencontrer, pour écouter notre invité du jour, à savoir Romain Sardou, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui suite à l'apparition de son nouveau livre chez XO Éditions, baptisé America. C'est le premier tome d'une trilogie à venir qui nous embarque à l'époque de la création des États-Unis. Romain Sardou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Alors, le passé vous inspire-t-il plus que le monde d'aujourd'hui? Est-ce que c'est pour cela que vous nous écrivez des romans historiques?
Alors, c'est pas une question d'inspiration, c'est plus lié à mes lectures. Principalement mes lectures d'adolescent. Moi, je suis venu à la littérature grâce à des auteurs comme Walter Scott ou Dumas ou Eugène Sue, qui étaient des grands auteurs de fresques historiques. C'est par eux que j'ai pris le goût de la lecture et le goût de la littérature en général. Et aujourd'hui, en fait, j'ai toujours, en écrivant mes romans, j'ai envie de recréer en fait les passions de lecture, les plaisirs de lecture que j'ai connus adolescent. Et donc, dans le roman, j'aime la dimension romanesque, la dimension d'évasion, surtout du roman, et je trouve que l'histoire participe de ça de manière formidable.
Alors, vos livres précédents nous emmenaient au Moyen-Âge, cette fois-ci c'est l'Amérique, et ce livre est également né finalement d'une lecture d'un livre. C'est pour cela que vous êtes intéressé aux États-Unis?
Mais, tout à fait, en fait, je suis tombé par hasard sur un roman de l'abbé Prévost. Alors l'abbé Prévost, on le connaît bien pour son roman Manon Lescaut. Ce que je ne savais pas d'ailleurs à ce moment-là, c'est que l'abbé Prévost a écrit plus de 200 romans. Enfin, c'était un graphomane fou qui a laissé une œuvre gigantesque. Et dans cette œuvre, il y a un roman qui s'appelle Les Voyages du Capitaine Ladd. Je suis tombé sur ce livre par hasard chez des amis. C'est une espèce une vieille édition du début du XXe siècle. Et donc je lis ce livre qui est assez passionnant. Et il y a un petit passage du livre qui parle de la création de la Géorgie, de la colonie de Géorgie en Amérique, qui est la 13e et qui sera la dernière colonie anglaise fondée en Amérique. Et l'abbé Prévost parle du fait que c'est une colonie qui a été créée à but philanthropique. C'est-à-dire que, à la différence des autres colonies anglaises qui étaient soit des colonies religieuses, soit des colonies, on va dire, économiques, là, ce sont des Anglais, des lords anglais, des parlementaires anglais qui se sont réunis, qui ont vu qu'il y avait beaucoup de pauvreté en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens malheureux qui ne pourront pas trouver de travail parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour nourrir tout le monde. Ils vont avoir cette idée un peu folle de dire, on va prendre un bout de terre en Amérique, au sud de nos colonies, et on va l'affecter à ces gens. On va leur payer la traversée en mer. Sur place, on va leur donner une maison, on va leur donner un terrain à défricher, on va leur donner des instruments, on va les nourrir. Enfin, vraiment une espèce d'assistanat comme ça, très généreux, en espérant qu'ils puissent se réaliser en Amérique. Et ça va même beaucoup plus loin que ça, parce que ces gens, ces philanthropes avaient même une idée encore plus folle, encore plus utopique. L'idée étant d'essayer de créer une société parfaite. Ils ont regardé comment on vivait en Angleterre à l'époque, à Londres. Ils ont dit, mais quels sont les défauts de notre société? Il ne faut pas les reproduire en Amérique, donc on va essayer de faire quelque chose d'idéal. Et voilà cette Géorgie qui se crée. En Géorgie, ils ont aboli la propriété. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, tout est commun. L'argent est commun. Les ressources sont communes. On interdit les avocats pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, le travail est mis en commun. C'est vraiment une espèce de tentative un peu pré-communiste avant l'heure, enfin de vision utopique comme ça, qui naît au sud de l'Amérique. Et quand je suis tombé donc ce petit détail dans le roman de l'abbé Prévost, je me suis dit, mais je ne connaissais pas cette histoire, je me dis, j'en avais jamais entendu parler, je me dis, ça vaut le coup d'aller creuser. Et 5 ans plus tard, me voilà avec mon livre.
D'autant plus que vous avez interrompu finalement votre désir de réaliser toute une série, plus au moins 9 volumes de livres dont les titres seraient chaque fois une strophe du Notre Père.
Ah, mais ça, c'est les romans médiévaux. Oui, mais j'ai pas interrompu, je fais une pause là pour écrire ça, mais je vais reprendre le fil médiéval après.
Donc ça passe aujourd'hui par ces hommes et ces femmes qui ont créé les États-Unis, un premier élan humanitaire, on pourrait dire, pour aider justement ces démunis. Il est question de ces Irlandais catholiques qui quittent l'Irlande pour se retrouver là-bas. On peut dire également que vous orchestrez une histoire de vengeance sur ce fond historique. C'est peut-être la partie fictive de ce roman. Est-ce que cette vengeance a un écho avec le conte de Monte Cristo, Romain Sardou, puisque vous êtes un grand lecteur avant d'être un
lecteur
auteur.
De Dumas. Oui, alors en fait, mon roman va se situer, démarre donc à la fin du XVIIIe siècle et va suivre deux personnages qui vont fonder deux grandes familles qui vont se perpétuer comme ça pendant les 3 tomes du roman. Alors on a d'une partie, on a les Bateman qui sont des Irlandais irlandais catholique. Et en 1690, les Anglais vont entièrement envahir, finir de coloniser l'Irlande. Et comme ils sont protestants, ils vont interdire le catholicisme en Irlande. Et les pauvres Irlandais qui voulaient défendre leur foi n'avaient que le choix de fuir, enfin soit de convertir, soit de fuir. Ils pouvaient fuir en France, ou alors, ce qui est le cas de mes personnages, de fuir en Amérique. Et là, mes deux petits personnages, qui sont un jeune couple de 19 ans qui vient de se marier, ils débarquent à Philadelphie. Philadelphie a juste 4-5 ans, c'est vraiment une petite ville en devenir, et à travers eux, on va voir tout comment et Philadelphie et New York se constituent à ce moment-là. C'est une histoire assez incroyable. Les choses vont très vite, les choses sont très 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 périlleuses, et ces deux Irlandais vont participer de la fondation de ce nord de l'Amérique. Ma deuxième famille, ce sont les Muirs, là ce sont des Anglais, et eux vont participer donc à la création de cette fameuse Géorgie dont je vous parlais tout à l'heure, ce projet un peu fou d'aller essayer de créer un monde parfait entre guillemets de l'autre côté de l'Atlantique. Alors évidemment, comme toutes les utopies, celles que je vous ai présentées sur la Géorgie, dès qu'elles touchent un peu le réel, les choses se compliquent un peu. Mmh. Sur le papier, c'était très bien, c'était très généreux et très, très optimiste. Il est évident que ça ne va pas se passer comme on le veut. La nature humaine est ce qu'elle est, elle a du mal à tout partager, à tout garder en commun. C'est une histoire qui va vite tourner court de manière assez assez violente. Mais les Muirs, ces Anglais-là, vont rester sur place. Ces deux familles, Bateman et Muir, vont finir par se rencontrer. Là-dessus, je crée une rivalité assez terrible entre ces deux familles qui va se résoudre dans une espèce d'envie de vengeance d'une famille sur l'autre, qui est telle, alors c'est là où effectivement c'est une vengeance un peu à la Monte Cristo, sauf que Monte Cristo arrive à régler tous ses problèmes en une vie. C'est-à-dire, il met 30 ans, mais il arrive à se venger tout le monde. Là, la vengeance est telle qu'il va falloir plusieurs générations pour arriver à ce que la haine soit vidée à ce point. Donc d'où le fait que cette trilogie qui démarre au début du XVIIIe siècle avec la création de la Géorgie nous amène jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le troisième tome se terminera aujourd'hui, qui est le moment où enfin cette terrible vengeance va être assouvie.
Alors Romain Sardou, vos premiers personnages qui ont quitté l'Irlande, des catholiques, ne savaient pas où ils allaient, comment ça allait se passer. Vous qui vivez aux États-Unis, est-ce que c'était la même chose pour vous quand vous êtes parti là-bas?
Non, parce que moi quand je suis arrivé, tout était prêt. Il y avait tout ce qu'il faut. Là, on parle de gens qui vraiment débarquent sur une terre totalement inconnue, qui est un enfer. Hein, d'ailleurs, en plus, ça, ils n'ont pas l'idée qu'ils partent vers un Éden. Ils savent très bien qu'ils vont arriver sur des terres vierges, entourées d'ennemis, de climats qui sont absolument redoutables. Pour donner un ordre d'idée, quand les pèlerins, les pionniers partaient, par exemple, ils étaient une centaine ou 200 dans un bateau, il suffisait d'un hiver en Nouvelle-Angleterre, ils se retrouvaient à 20 ou 22. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'hommes pour enterrer les hommes qui mouraient. Tellement c'était. Et pourtant, ces hommes-là ne partaient pas. Un autre bateau revenait. Pareil, la moitié mourait dans les 8 mois qui suivaient. Il y a une espèce de ténacité et de force qui est assez incroyable dans cette histoire. Il faut bien voir que tous ces premiers colons sont des hommes qui sont des hommes persécutés à la base. La plupart sont des religieux européens. Alors, par exemple, des huguenots en France ou des catholiques en Irlande, comme je disais tout à l'heure, qui ne peuvent pas pratiquer leur foi dans leur pays et qui donc décident de tout abandonner pour courir tous les risques possibles pour pouvoir vivre leur foi en paix. Et ça leur donne une espèce de force comme ça, d'énergie qui est assez impressionnante et qui explique que voilà, ces hommes ont tenu malgré tout, malgré toutes les difficultés, les maladies, les Indiens, le climat atroce, ils ont réussi à fonder un pays. C'est vraiment une leçon de courage et de force qui est assez impressionnante.
Et ce sont ces hommes et ces femmes qui vous passionnent. Est-ce que du côté francophone, on a un peu oublié l'histoire de ces hommes et de ces femmes? Par contre, du côté anglais, sans doute qu'il doit y avoir une multitude de livres, de documents d'époque même.
Mais alors, ce qui est amusant pour parler des Français, c'est que quand on parle de la création de l'Amérique, on parle toujours de Lafayette. On est très content de dire que les Français ont aidé à sauver les colons anglais du joug royal. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que les Français, jusqu'à peu de temps, pendant un siècle et demi, étaient les ennemis irréductibles des Anglais sur place. C'est-à-dire que on a eu des guerres atroces faites d'Indiens contre Indiens. Et on n'a jamais été alliés avec l'Amérique, sauf à ce moment-là. Donc on a un petit côté, on est toujours un peu en train d'essayer de manière chauvine de dire qu'on a participé, mais on est des grands ennemis en fait de l'Angleterre. Et en revanche, cette histoire de Géorgie dont je vous parlais au début, là, ce qui est certain, c'est que je n'ai rien trouvé en France sur ce sujet. Il y a des histoires de l'Amérique générale qui vont accorder quelques pages à cette à cette partie de leur histoire, mais très très peu. C'est vraiment en allant sur place, en allant à Savannah, dans l'université de Savannah, que j'ai découvert tous les documents qui ont nourri le livre. Et là, pour le coup, j'ai été vraiment vraiment surpris, agréablement surpris. C'est-à-dire que il faut se dire que dès les tout premiers colons, c'est-à-dire qu'on est vraiment, disons, au milieu du XVIIe siècle, les premiers Européens qui partent, qui traversent l'Amérique, qui traversent l'Atlantique et qui arrivent en Amérique, ont conscience de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ils sentent bien que les choses ne seront plus comme avant, que quelque chose d'important est en train d'arriver. Donc il faut tout conserver de ce qu'ils font. On a encore aujourd'hui la correspondance, les journaux intimes, les documents officiels, les mémoires. Tout le monde écrit ses mémoires, tout le monde raconte comment c'est passé. Ça fait une somme de documents et d'informations pour l'historien et pour l'auteur de romans historiques qui est absolument impressionnante. Et vraiment, je n'ai pas cessé, ça fait 5 ans que je travaille sur cette série, et je n'ai pas cessé de découvrir une multitude d'éléments, de détails, de choses qui rendent tout d'un coup, qui rendent ces personnages très vivants, qui les rendent très proches, et de remplir le livre de ça, quoi. C'est vraiment, c'est une histoire assez incroyable.
Un grand travail de documentation, donc, avant de nous raconter cette histoire. Il est également beaucoup question des fameuses prisons de dettes en anglaises. Ça, c'est quand même quelque chose d'effarant dans l'histoire.
Parce qu'en fait, tout part de là pour la Géorgie. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, la législation anglaise partait du principe que quand vous avez des dettes, par exemple, vous devez de l'argent à quelqu'un et que vous ne pouvez pas le rembourser, à partir d'un certain moment, vous devenez physiquement sa propriété. C'est-à-dire que ce n'est plus la dette de la chose qui est en jeu, vous devenez sa propriété. Donc l'homme peut faire à peu près ce qu'il veut de vous. Et généralement, il vous enferme dans une prison spéciale, c'est-à-dire qu'une prison pour dette, une prison pour insolvable, et vous ne sortez pas de cette prison tant que vous n'avez pas remboursé votre créditeur. Et déjà ça paraît bizarre, mais ce qui est encore plus horrible, c'est que ces prisons sont des organismes privés, à but lucratif. Donc en plus, les personnes qui sont emprisonnées doivent payer pour avoir une chambre et pour pouvoir être nourries. C'est une espèce de cercle vicieux absolument fou qui a créé des horreurs pour certaines personnes. Ceux qui lisent Dickens connaissent un peu ça parce que lui, il a vécu enfant, donc il en a souvent parlé. Mais il se trouve qu'il y a un personnage très important qui s'appelle James Oglethorpe dans mon roman, qui est un parlementaire anglais et qui a un ami qui va être emprisonné dans ces fameuses la prison de la Fleet, qui est une prison pour insolvables. Il doit juste 30 livres, le pauvre, mais bon, il se retrouve quand même au trou pour ça. Il va tellement être maltraité par le gouverneur de la prison qu'il va en mourir, qu'il va mourir dans sa cellule. Ce parlementaire, son ami parlementaire, arrive dans la prison, découvre la réalité de cette situation, dit mais c'est pas possible, on peut pas laisser des gens comme ça mourir uniquement parce que pour des dettes, des fois juste des dettes. Vous vous rendez compte, le père de Charles Dickens s'est retrouvé 6 mois en prison parce qu'il devait 20 livres à son boulanger. Enfin, c'est totalement totalement aberrant. Il se révolte, il va au Parlement, il dit on peut pas garder les choses comme ça, il faut absolument changer. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces insolvables? Il arrive à faire une loi qui libère 10 000 hommes du jour au lendemain. 10 000 prisonniers dans les différentes prisons sur dette sortent de prison du jour au lendemain. Et tout d'un coup, on se dit, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de métier, il n'y a rien. Ils ne vont pas pouvoir se travailler en Angleterre. D'où l'idée d'aller les exporter et de faire cette colonie de la Géorgie. Donc cette petite histoire de la Fleet qui est importante au milieu du roman, c'est un petit détail. Moi, c'est ce qui me fascine dans l'histoire. Même la grande histoire, elle est toujours faite par des petits détails de la vie des gens. Voilà, c'est un homme qui perd un ami, qui dit c'est pas possible que les choses se fassent comme ça, et qui, par ce simple mouvement-là, va changer le monde d'une certaine manière.
Alors, Romain Sardou, ce premier tome se termine par un détail qui n'est peut-être pas un, le passage d'une comète. Alors, le passage d'une comète, c'est un présage heureux ou malheureux?
Ah ben c'est un présage heureux pour une de mes familles et malheureux pour l'autre des familles. Mais en fait, le livre se termine au moment, tout ce premier tome est la préparation pour la Géorgie. En fait, le premier tome se termine au moment où les premiers 114 pionniers, donc choisis entre les endettés, des gens qui ne pouvaient pas vivre de manière, qui pouvaient prouver qu'ils ne pouvaient pas gagner d'argent sur le sol anglais, ont été sélectionnés et partent. Voilà, ils arrivent. Mon Dieu, c'est ça aussi qui m'a fasciné, qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est qu'ils arrivent à Savannah, mais Savannah à l'époque c'est juste un fleuve et des immenses forêts de pins, il y a rien du tout. Et ce qui m'a absolument donné envie d'écrire ce livre, c'est que j'ai fait un rapprochement de dates. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'un Anglais qui serait né, disons, en 1714, qui participe donc de ce premier voyage, en 1732, il prend le bateau, qui s'appelle le Lady Anne, il traverse, il arrive à Savannah. Quand il arrive sur place, donc il n'y a rien. Il y a juste un fleuve, on lui dit, voilà, c'est là qu'il faut créer une ville. Il est là avec sa petite machette, il va couper du bois, il va faire sa première tente, il part de rien pour essayer de créer quelque chose. Quand cet homme va mourir, disons 1789-88-89, non seulement là où il a planté sa petite tente, il y a une ville gigantesque qui s'appelle Savannah, non seulement la Géorgie est devenue une province tout à fait prospère, mais en plus il a participé à la création d'un nouveau pays. Il meurt, les États-Unis existent. C'est absolument incroyable de dire qu'il y a autant d'événements historiques liés dans une seule génération d'hommes. Généralement en histoire, la vie d'un homme, c'est pas grand-chose au regard de l'histoire. Il faut plusieurs générations pour que les grandes mutations se fassent. Là, sur une seule génération, vous avez un homme qui est anglais, qui part là-bas parce qu'il a pas trop le choix, il va essayer de se débrouiller. Il a changé la face du monde. Cette génération-là a changé la face du monde. Je voulais absolument raconter la vie de cet homme. Je trouvais ça assez intriguant de rentrer dans sa tête à la fin de sa vie. Quand il fait le retour sur tout ce qu'il a vécu, comment percevoir ça et comment sentir ça, quoi. C'est vraiment ce qui m'a poussé à écrire ce roman.
Voilà, dont le premier tome paraît aujourd'hui. Il y en aura trois. Le deuxième va suivre rapidement, Romain Sardou.
Mois d'avril. Pour le printemps.
Voilà. En tout cas, merci d'avoir été présent aujourd'hui chez nous pour présenter ce livre. Merci à vous d'avoir été présent. On va poursuivre cette rencontre avec une séquence de signatures et vous pourrez rencontrer Romain Sardou au cours de cette séance. Un grand merci à vous. Merci Romain Sardou.
Merci beaucoup. Merci.